RCF.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'émission Neveu de René, Chemin de pensée. Vous êtes à nouveau avec Sylvain Contassovivier pour continuer notre cycle d'émissions autour de l'entretien avec Solène Bardet au sujet du peuple Himba. Ce peuple de Namibie qui reste ancré dans ses traditions, malgré les appels, ou devrait-on plutôt dire, les pressions du monde moderne. Dans l'émission précédente, nous avons pu découvrir diverses facettes de ce peuple, un peu de leur histoire, de leur façon de vivre, leurs croyances et leur organisation, mais aussi leur rapport au modernisme. On a pu voir notamment que les Himba ne sont pas opposés à ce modernisme, mais qu'ils n'en prennent que quelques éléments qui leur sont utiles dans leur vie quotidienne, sans pour autant abandonner leur vie traditionnelle. Un exemple marquant est les enregistrements de chants traditionnels sur téléphone portable pour les faire écouter à d'autres. Si on y réfléchit bien, c'est peut-être une des plus belles utilisations qui est faite de ces appareils. Enfin, on a vu que le lien avec les ancêtres reste très fort et continue à être au centre de la vie de la communauté. Alors dans la suite de la discussion que nous allons entendre aujourd'hui, nous réfléchissons à l'avenir des Himba, les dangers qui les menacent, la coexistence possible de cette société avec la nôtre, et ce sera également l'occasion de découvrir d'autres facettes de ce peuple étonnant. Retour donc à la discussion avec Solène Bardet.
Chemin de pensée avec les neveux de René.
Alors, par rapport justement au fait que notre société s'étend au niveau même des territoires, vous mentionnez dans vos ouvrages que les Himba sont menacés, ou ont en tout cas été menacés, le sont encore apparemment, par un projet de barrage hydroélectrique sur le fleuve Kunene.
Mm-hmm.
D'ailleurs, vous êtes opposé à ce barrage avec d'autres ONG. Qu'en est-il aujourd'hui de ce projet?
Alors, d'abord, c'est un vieux projet, qui avait été lancé par les Allemands au début du siècle, d'abord. Et puis, après l'indépendance de la Namibie, récupérée par Sam Nujoma, le premier président, qui voulait vraiment en faire sa grande œuvre. Donc, il y a eu un premier projet, après l'indépendance, le barrage des Poupas, qui devait inonder 380 km² de pâturage, qui est vraiment énorme. Et contre lequel se sont très vivement opposés les Himba. Ils ont fait plusieurs sittings dans la capitale, ils ont fait un voyage en Europe, plusieurs ONG les ont accompagnés là-dedans. Et conclusion, la Banque mondiale s'est désengagée du projet et le projet a été annulé. D'accord. Mais il y a quelques années, le gouvernement namibien a relancé un nouveau projet de barrage, un petit peu plus bas, le barrage d'Olokawe, qui lui est moins important, il inondera 60 km² de territoire. Ça sera quand même le plus haut barrage béton d'Afrique qui existe. Donc c'est quand même pas un petit projet. Les Himba sont tout autant opposés qu'avant à ce projet, sauf certains jeunes qui se disent « Ah, on pourra trouver du boulot, ça sera des opportunités ».
Il n'y avait pas aussi un problème avec des tombes d'ancêtres?
Alors oui, ça inondera aussi plusieurs tombes d'ancêtres, moins dans cette deuxième partie, dans ce deuxième projet que dans le premier projet. Dans le principal problème aujourd'hui avec ce projet, c'est que un barrage, ça veut dire plusieurs milliers de travailleurs pendant plusieurs années. Là, en l'occurrence, je crois qu'on est à 3 ou 4 000 travailleurs pendant un minimum de 6 ans. Donc ça veut dire surpopulation, surpâturage, surexploitation des ressources. Les Himba craignent beaucoup le vol de bétail. Ça veut dire maladie aussi. Et en gros, ça veut dire déstructuration totale de la société Himba telle qu'elle existe aujourd'hui. Parce que 3000 travailleurs étrangers ou Himba, donc ça veut dire qu'ils ne respectent pas les coutumes Himba, l'autorité Himba, etc., voilà, puis ça veut dire aussi des routes, toute une économie nouvelle qui se met en place. La région des Himba, c'est quand même une région où on a une densité de 0,01 habitants au kilomètre carré. Donc c'est énorme, voilà.
Oui, c'est sûr que c'est pas seulement le barrage, c'est vraiment tout ce que ça entraîne qui est dangereux pour eux. Du coup, pour quelque chose dont ils n'ont pas besoin.
Non, et puis en tout cas actuellement dans les projets, enfin les plans autour de ce barrage, c'est pour amener de l'électricité pour la Namibie, dans la capitale, dans les grandes villes, mais absolument pas chez les Himba. Il n'y a aucun projet d'électrification. Et d'ailleurs, les Himba ne le
Oui,
demandent
c'est ça,
pas.
ils n'en veulent pas. Alors, par rapport à, donc, à cet exemple-là qui est assez frappant, du coup, comment on peut imaginer imaginer l'avenir des Himba et qu'est-ce qu'on peut espérer pour eux en fait?
Moi, ce que j'espère, ce que eux espèrent, en fait, c'est de pouvoir évoluer à leur rythme, d'être dans des situations où ils peuvent choisir eux-mêmes leur destin. Oui, énormément de Himba ont envie d'école, de dispensaire, que leurs enfants étudient, qu'ils aient une vie un peu plus facile qu'eux-mêmes, que quand un gamin est malade, voilà, il meurt moins facilement. Et ils ont envie de tout ça. De ne pas avoir 50 km par jour à faire pour aller chercher de l'eau, d'avoir un puits un peu plus près. L'important, je crois, c'est qu'ils restent en mesure de choisir eux-mêmes, voilà, et que les choses ne leur soient pas imposées. S'il y a ce projet de barrage,
Oui, c'est sûr.
voilà, ça va aller beaucoup trop vite pour eux. Et du coup, ils ne pourront pas suivre de manière naturelle, volontaire. Donc ça risque vraiment d'être un problème. Sinon, pour moi, tant qu'ils restent maîtres de leur destin et tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui tiennent debout, qui savent qui ils sont, qui n'ont pas de problème d'identité.
Oui, c'est ce qu'il y a de mieux à leur souhaiter, effectivement.
Voilà. Et après, ceux qui vivent habillés avec un pagne ou une peau de chèvre.
Oui,
Ça les regarde,
bien sûr,
voilà,
bien sûr.
personne n'a rien à dire là-dessus,
C'est
quoi.
clair. Alors,
Voilà.
par contre, justement, vous parliez tout à l'heure de l'école. Et on peut se demander, en fait, si même ça, c'est pas déjà un risque d'abandonner leur propre culture. Est-ce que l'école en elle-même, même si on voit ça plutôt de manière positive, mais est-ce que ça, c'est pas déjà quelque chose qui peut fragiliser finalement
Ah, si, bien
les
sûr.
Himba?
L'école, c'est le premier, la première raison en fait qui fait que les jeunes s'éloignent de leur culture. Parce que l'école est pensée par des non-Himba. Enfin, c'est le cas pour toutes les écoles dans des régions similaires, hein. L'écriture déjà n'est pas adaptée au mode de vie des Himba. Une femme Himba, elle est couverte d'encre et de graisse, donc elle peut pas toucher un morceau de papier. Parce que tout de suite, il va être tout gras, tout rouge. En fait, il y a plein de choses. L'ocre et la graisse cantonnent vraiment les femmes dans un mode de vie très traditionnel. Et ensuite, les gamins, quand ils vont à l'école, alors les premières années, ils n'ont pas encore d'uniforme. Mais en tout cas, ils ne seront pas forcément habillés de manière traditionnelle. Donc, ils auront un t-shirt, un short. Ben dès qu'ils rentrent dans le campement de leurs parents, dans un campement, tout est rouge, parce que évidemment les femmes
Oui, c'est
vivent,
normal.
donc évidemment ils vont toucher leur mère, et ils vont se mettre du rouge quelque part, après ils rentrent à l'école, tout le monde se moque d'eux, donc du coup ils vont finir par ne plus aller dans le campement. Voilà, il y a aussi ça qui joue.
Mais quelque part, c'est peut-être une nécessité pour augmenter quand même leurs chances d'intégration. L'école est quelque part la porte d'entrée pour pouvoir s'intégrer mieux dans notre société, mais c'est aussi la porte de sortie de leur propre société, quoi.
C'est ça. Alors après, il y en a qui arrivent à être avec les deux, c'est-à-dire avoir appris ce savoir qui leur permet justement de comprendre un peu mieux le monde extérieur, parce que c'est de ça dont il s'agit, et qui restent très ancrés dans la société, dans la tradition Himba. Et il y en a d'autres, et ben ça leur donne d'autres idées, d'autres rêves, et qui aspirent à en sortir.
Au niveau de l'intégration, justement, dans notre société, pour ceux qui vont vers ça, quelles sont les chances en fait d'intégration? C'est-à-dire quel genre d'emploi on peut imaginer que ces Himba vont pouvoir faire en fait?
Très faible,
Ouais.
quasiment pas. Il y en a beaucoup qui essayent et malheureusement, parfois, ça finit au bottle store.
Ah oui.
Non, très faible d'abord parce que les Himba sont assez mal vus par le reste de la société namibienne. En général, on parle d'eux avec beaucoup de mépris. On les appelle les babouins.
Ah oui. Là, les gens qui les appellent comme ça, c'est aussi des gens africains noirs.
Oui, tout à fait. Et il y a beaucoup d'autres régions de Namibie où on raconte aux petits gamins que, attention, s'ils sont pas sages, il y a un grand méchant Imba qui va venir le prendre. Et, Donc ils ont quand même cette réputation qui est totalement fausse. Hein. Les Imba sont plutôt des gens pacifistes. Oui. Et, voilà. Sont très loin d'être des violents. Et puis en plus, ceux qui ont fait leur école, leur classe dans la région des Imba, quand même, par rapport au reste des Namibiens, ils ont un niveau très faible, quoi. Donc ils ont et puis il y a très très peu d'emplois dans leur région, donc il faudrait qu'ils trouvent,
il faut qu'ils bougent. C'est surtout du tourisme ou des choses comme ça, faire l'interface un petit peu.
C'est ça.
Chemin de pensée sur RCF.
Justement, donc, par rapport à ces problématiques d'avenir des Imba, j'invite nos auditrices et auditeurs à aller consulter donc, le site de l'association Kova Imba, K-O-V-A-H-I-M-B-A, donc, que vous avez fondé d'ailleurs avec votre mère adoptive. Et donc, cette association, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots donc, les objectifs et puis les projets en cours ?
La Kova Imba, ça veut dire avec les Imba. Et le principe de Kova Imba est simple, ce sont les Imba qui décident des projets, qui les votent entre eux. Et le rôle de Kova Imba est de trouver les sous en France, en Europe, et d'accompagner les Imba dans la réalisation de ces projets. Voilà. Donc en règle générale, souvent il s'agit d'un forage pour de l'eau, parce que c'est quand même aujourd'hui le problème majeur des Imba. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé à aller là-bas, chez les Imba, bon, les hommes creusaient 10-15 mètres dans le lit de rivière, et en général, là où il y avait de l'eau, ils trouvaient de l'eau. Réchauffement climatique, 20 ans plus tard, il faut forer à 150-200 mètres. Wow. Voilà. Donc ça veut dire des machines qui viennent de la capitale, en général, dans 1000 km. Un forage avec la pompe, le panneau solaire, l'abreuvoir pour le bétail, etc. On est selon la distance et puis selon le fait si on arrive à faire plusieurs forages en même temps et à faire des économies sur le transport des machines, on est entre 20 et 30 000 euros. Voilà.
Par puits.
Par puits.
Ah ouais.
Voilà. Donc évidemment là-dessus les Imba ont besoin d'aide et c'est vraiment le problème majeur.
Sans eau, plus de troupeaux quoi.
Voilà, et puis plus de vie. Et par exemple les 4 dernières années là, il y a vraiment un problème de sécheresse et la vie est quand même très compliquée quoi.
Ouais, j'imagine. Voilà.
Donc ça peut être ça. Après il y a aussi d'autres projets collectifs, par exemple un projet de camping communautaire, un projet plus ambitieux de centre culturel, centre des communautés.
Qui serait donc sur le territoire, implanté sur
oui,
le territoire.
Hein. Oui, qui appartiendrait au Imba. Après, en ce moment, l'urgence, c'est un peu l'eau.
Oui, voilà. Bien sûr. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ces projets, à chaque fois, les Imba sont impliqués.
Tout à fait. Tout à fait. Le projet, enfin, la réalisation leur appartient, la propriété leur appartient. Ils élisent aussi des responsables qui sont chargés d'entretenir le forage. Une partie du travail de Kova Imba, ce qu'on voit dans Rouge Imba, la BD aussi, c'est aussi en fait, d'initier une dynamique, de créer les espaces de rencontre où les différents responsables vont pouvoir se rencontrer, discuter, régler leurs problèmes pour faire en sorte que tout se passe bien.
Oui.
Voilà. Et que ces projets puissent continuer à profiter à l'ensemble des communautés dans la joie et la bonne humeur.
Le monde se lève pour quelques euros, mais c'est déjà plus que zéro. Tandis que les prolos rêvent du loto, les actionnaires raflent le magot et les petites gens ont bon dos. On va y laisser notre peau. L'homme postmoderne est sur le trottoir et l'on se coiffe devant son miroir. Que des choix provisoires, on a délaissé notre histoire. Et je ne sais plus qui croire. Et tout le monde vit dans le noir. Mais tout va bien. place dans mon auto, je suis en mode automatique. J'ai des révoltes sous le capot, je dépasserai la politique. Et je ne sais plus ce qui est faux. On a perdu nos idéaux. Même si je crois aux écritures, j'abandonnerai les livres obscurs, car ils pèsent sur ma monture et ralentissent mon allure. Et je ne suis plus si sûr. On va tout droit dans le mur, mais tout va sombrer dans l'horreur, mais tout va bien.
Chemin de pensée avec les neveux de René.
D'un point de vue un petit peu, on va dire, plus philosophique, l'existence ou la subsistance, je ne sais pas trop comment on peut dire, d'un tel peuple pose plusieurs questions, justement, concernant la diversité en fait, des cultures et la possibilité d'une cohabitation entre elles. À votre avis, que peut-on dire, justement, du sens de ces deux organisations humaines, l'une par rapport à l'autre ? Pour préciser, est-ce que le peuple Himba peut nous apprendre des choses sur nous, à la limite même en tant qu'individu, ou sur notre société?
Oui, les Himba nous apprennent des choses sur nous, mais c'est compliqué de le dire, c'est à chacun d'y répondre. Il y a quelques années, on avait organisé un séjour d'immersion chez les Himba. Donc, on accueillait en fait six participants à vivre 5 jours dans un village Himba. Les 6 personnes ont toutes adoré et apparemment ça les a vraiment marqués, ça a été quelque chose de très important dans leur vie. Une de ces 6 personnes, en fait, à un moment elle était dans le village, assise sur un tabouret, et elle regardait, et elle m'a dit, mais ça fait des années que ça ne m'est pas arrivé. Alors, après, est-ce qu'on a besoin d'aller chez les Himba juste pour se poser et ne rien faire et regarder autour de soi pendant 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure? Apparemment, certaines personnes, oui. Et en ce sens-là, les Himba lui auront appris quelque chose, apporté quelque chose, éclairé quelque chose. Voilà. Il n'y avait peut-être pas forcément besoin des Himba. Telle autre personne, en fait, vous laisse s'habiller en Himba, donc c'est enduite d'ocre et de graisse, seins nus, alors ils sont plus nus puisqu'ils sont recouverts d'ocre et de graisse, c'était une femme. Même chose, ça a été quelque chose de très important pour elle, parce qu'elle a dépassé quelque chose d'elle-même dans son rapport au corps, à la nudité, à l'autre. Voilà, ça a été quelque chose d'important pour elle.
Est-ce que c'est pas aussi peut-être un rapport plus fort ou plus proche avec aussi la nature d'une certaine façon,
enfin, tout à fait, à la terre, cette voilà, terre dont on s'enduit, cette voilà, il y a des gens qui ont ça en France, qui n'ont pas besoin d'aller faire le voyage. Donc cette question, en fait, c'est très difficile de répondre. C'est à chacun même en France, il y a quand même une diversité d'individus tellement grande que c'est difficile.
Mais alors, par contre, d'un point de vue plus global, par rapport à notre société, et donc si on compare, si on regarde un petit peu le mode de vie et le fonctionnement de la société Himba par rapport à la nôtre,
Est-ce qu'on peut, quelle conclusion on pourrait tirer, ou est-ce qu'il y a des choses intéressantes justement à voir là en fait?
Après, oui, il y a des grandes choses qui sont vraiment très différentes. Le rapport au temps. Nous, on est une société aujourd'hui où tout le monde court sans arrêt. Les Himba, ils ont le temps. Voilà. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, ben, on le fera demain ou après-demain ou un jour, peu importe. Il y a 2 ans, on a fait venir un jeune Himba ici à Paris. Il est venu passer une semaine. Un jeune Himba avec qui je travaille depuis déjà plusieurs années, qui est mon assistant interprète sur place, qui a étudié les beaux-arts dans la capitale plusieurs années, donc il sait ce que c'est qu'une grande ville, il parle couramment anglais, voilà, il n'est plus dans une vie traditionnelle uniquement. Mais ça a été très difficile pour lui, et il est revenu en disant, mais... comment vous faites? Vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre parce que vous n'avez pas le temps. Et puis, vous devez payer pour tout. Dès que vous n'êtes plus chez vous, aller aux toilettes, c'est compliqué. Boire un verre d'eau, c'est compliqué. Faut boire, faut payer. Mais si tu ne veux pas payer, c'est pas simple. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de temps, faut payer. Voilà. Et ça a été pour lui, enfin, il a dit... Même si donc il habite dans un campement Himba, la vie est difficile, il fait chaud, les bêtes meurent, on ne mange pas tous les jours. Mais il est rentré en disant, en pensant que pour lui, sa vie était quand même beaucoup plus facile que la nôtre.
Ah ouais, il y a un sentiment de liberté largement plus important, quoi, d'une certaine façon. Mmh.
Pour lui, nous, on n'est pas maître de notre vie.
Ouais. Voilà. Ah, c'est vraiment intéressant, ouais. Et alors, donc c'est son regard. Vous qui êtes au final, vous êtes intégré dans ces deux sociétés, hein, puisque vous êtes considéré par les Himba comme une Himba. Comment vous vous situez un petit peu entre ces deux sociétés, où, alors, vous situez, c'est peut-être le mot est peut-être mal choisi, mais finalement, comment vous comparez ces deux sociétés, vous? Quel est votre regard entre les deux choses?
Alors, oui, on a peut-être moins de liberté, enfin. Disons qu'on a des emplois du temps plus chargés, voilà. Et que d'un point de vue matériel, il y a beaucoup de choses à gérer et que c'est assez compliqué dans notre monde, oui. Après, on est dans une société ici en Occident où l'individu a quand même beaucoup plus d'espace et peut se permettre de dire beaucoup plus de choses. Et en ce sens-là, moi, je trouve qu'on a beaucoup plus de liberté. Chez les Himba, on est encore coincé dans... Un jeune Himba qui veut faire différemment de ses parents, c'est très, 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 très compliqué. Voilà.
C'est la communauté d'abord, en fait.
Ah oui, oui, oui. La communauté prime sur tout. Et on est vraiment dans un principe de survie. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi encore aussi traditionnels, quoi. Et ceux qui s'éloignent de ça, c'est pas facile à vivre pour eux. Voilà, il y a peu d'espace de parole. La parole individuelle, en fait, est vraiment très rare, naissante, quoi.
Voilà qui termine donc ce deuxième volet de la discussion avec Solène Bardet, qui, j'espère, vous aura captivé et aura suscité curiosité et questionnement philosophique, notamment sur la coexistence de sociétés très différentes, la notion de liberté et bien d'autres encore. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les informations sur l'association Koba Himba sur leur site internet à l'adresse www.association-kobahimba.net. Koba Himba s'écrit K-O-V-A-H-I-M-B-A. Voilà, donc nous nous retrouverons lors de la prochaine émission pour le dernier volet de cette discussion. En attendant, bonne méditation philosophique.